compliquée face à son adversaire du jour, la Russe Anna Kalinskaya, 24e mondiale. La Russe mène 6-2, 3-1. C'est compliqué pour les Boissons.
Eric Mamrut pour nous faire vivre ce tournoi de tennis de Roland-Garros. RFI à Paris.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout. Dimanche 7 juin, tout Angers bouge au lac de Maine.
Trail urbain, course des familles, initiation sportive, démonstration, animation.
Venez découvrir plus de 100 disciplines dans une ambiance festive et conviviale. Toute la journée, du sport pour tous avec
des surprises, des défis et de nombreuses associations angevines à rencontrer.
Et bonne nouvelle, Radio G sera en direct sur place à 11h, 13h30 et 17h30 sur le 101.5 FM. Rendez-vous dimanche 7 juin
au village des sports de tout Angers Bouge, au lac de Maine à Angers.
Plus d'infos sur angers.fr.
Les 29 et 30 mai, c'est sur le site du plan d'eau de la Fontaine aux Mers, la Montbuisson, près d'Anceny, que se tiendra la 20e édition du festival au Mauvais Buisson. Retrouvez sur scène ce Rum Jack, Makeover, Tol Capsule, Petit Biscuit et Tambour du Bronx et bien d'autres. Parking et camping gratuits grâce à votre billet d'entrée. Bar et restauration sur place. Billetterie dans vos lieux de vente habituels sur le site aumauvaisbuisson.fr et sur place.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Putain, chaleur, voilà, on peut pas dire autre chose que ça pour commencer cette émission. Il fait sacrément chaud, n'est-ce pas Charles? Je te vois me regarder attentivement avec de la sueur dégoulinant de partout sur ton front. Comment vas-tu Charles?
Ça bah, écoute, c'est atroce hein, cette fin du monde. Non mais blague à part, c'est bon. Non mais ça va, on va survivre. Et en plus, le pire c'est que j'étais au Havre ce week-end en tournoi d'impro. Et même là, il faisait une chaleur infinie, donc autant dire qu'il n'y a pas d'espoir, on n'y part.
Il a fait aussi chaud à Brest qu'à Nice, je crois, hier, donc Brest c'est en Bretagne et Nice c'est...
Oui, non, j'avais compris la vanne, merci.
Tu étais bloqué sur mon « je suis passé chez Soch ».
Ouais, c'est ça,
exactement. Oh là, on a fait des placements de produits Orange, tout ça.
Voilà, ça c'est dit.
Bon, l'édito impro qui va arriver dans pas longtemps, puisque nous n'avons pas tout à fait beaucoup d'invités ce soir, on va parler de quoi dans cet édito impro? Est-ce que tu nous fais un bilan du Havre?
En fait un peu oui, parce que au Havre j'ai fait un match d'improvisation avec j'ai fait un tournoi avec des vieux potes d'impro, et ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu. Donc c'est des potes de la terminale, autant dire que ça date.
C'est pas des fameux potes, tu nous avais parlé d'anecdotes ou je sais
c'est
pas quoi.
C'est exactement ça. Okay. Donc ils ont entendu l'émission, ils ont dit il y a un tournoi, ils nous ont appelé, ils ont dit réserve ce week-end là.
Ils sont venus? Ou c'est toi qui étais?
Non mais on s'est retrouvé au Havre, on a fait le week-end ensemble et on est retombé en enfance quoi.
Trop fou.
Non, mais je te jure.
Bon, bah écoute, l'édito impro dans vraiment pas très très longtemps. Juste après, dans la foulée, nous aurons Junior. Bonsoir Junior, comment ça va? Toi, t'aimes bien le soleil et tout ça, la chaleur?
Ouais, mais là, j'avoue, la mer me manque là. Petite baignade là.
Ah oui, t'aimes bien quand il y a la mer à côté pour surfer?
Ouais, enfin, juste pour se rafraîchir. Enfin, la chaleur là, il fait 30 à l'appart là actuellement.
Ah d'accord, bah on est en direct de l'appartement de Junior.
Oui. Trop chaud.
30, il fait toujours un peu moins chaud que dehors quand même. J'imagine que c'est pas de ça dont on parle dans la story de Junior tout à l'heure.
Non, mais figure-toi que ça fait depuis le mois de mars que je suis pas
venue. Oui, c'est l'écart thermique là.
En fait, ouais, donc il y a pas mal de trucs à... Ah voilà quoi, les news.
T'as pris beaucoup de followers peut-être depuis?
Mais oui.
C'est vrai?
Mais ouais, je te jure.
T'as dépassé les 1000?
Mais je suis à 4000.
Quoi? Ah oui, il s'en est passé des choses.
On arrive bientôt aux 5000 là, je compte sur vous. Et ouais, je parle un peu de tips aussi, des trucs que j'ai compris récemment dans la création de contenu, dans la stratégie aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler aujourd'hui.
Et bah hâte d'entendre ça, même pour les personnes qui ont envie qui partagent des contenus sur leurs réseaux sociaux par exemple. On aura tonton Albert tout à l'heure en fin d'émission. Bonsoir Sidonie, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Pierre Benoît?
Oui, ça va. Bon, on va pas faire la discussion là maintenant tout de suite. Tu as accompagné Simon pour préparer cette émission. Bonsoir Simon.
Bonsoir, bonsoir Pierre Benoît, bonsoir tout le monde.
Ça a été la direction par Sidonie, n'est pas trop autoritaire?
Non, ça va, c'est très bien.
Alors c'est toi, mais d'ailleurs, oui, je prends l'émission, mais c'est toi qui devrais faire
Tu m'as pris l'animation là.
Ah bah oui, bah vas-y, allez, je t'en prie, c'est à toi.
Ok, bah là, du coup, on est On a fait le tour des
il
présentations.
Il dit rien, il me laisse faire.
On a fait le tour des présentations. Donc voilà, tu t'as introduit un petit peu Sidonie. On aura un fauneur sur le Fatal Festival, le festival des arts vivants et du théâtre amateur ligérien avec Sidonie. Donc tu l'as rappelé, Pierre Benoît. On conclura cette émission avec la chronique de Tonton Albert. Mais avant toute chose, on retrouve comme d'habitude le Flash Info avec Colin et Marie.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Je me suis cru chez moi, j'ai pris sa place. Simon. Ah bah oui, je vous mets pas son micro.
On enchaîne du coup le Flash Info avec Colin et Marie.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire. Sur Radio G.
Et on commence avec un renforcement important des mesures face à la canicule à Angers. Alors que le Maine-et-Loire est toujours en vigilance orange, la ville d'Angers a déployé un dispositif spécial pour protéger la population. Réunie ce mardi matin autour du maire Christophe Béchu, la cellule de vigilance canicule a acté plusieurs mesures d'adaptation. Dans les écoles et les crèches, des aménagements ont été mis en place ou renforcés. Installation de ventilateurs, de brumisateurs, hydratation régulière et réorganisation des activités pour limiter l'exposition des enfants aux heures les plus chaudes. Les menus de cantine seront également adaptés. Plus largement, ce sont les services municipaux qui s'adaptent, horaires d'été pour certains chantiers, ouverture avancée des déchetteries ou encore adaptation des activités sportives. Enfin, la ville a décidé d'étendre les horaires des parcs et jardins jusqu'à 22h afin de proposer davantage d'espaces de fraîcheur aux habitants. Autre nouvelle pour les écoles, le prix des repas servis à la cantine scolaire va augmenter à la rentrée prochaine. Selon les décisions qui seront présentées en conseil municipal ce mercredi, les tarifs de la restauration scolaire vont augmenter en moyenne de 2,3%. Concrètement, le prix du repas le plus bas passera de 85 à 87 centimes, tandis que le tarif le plus élevé passera de 6,10 € à 7 €. Cette évolution intervient dans un contexte de débat politique, alors que le groupe d'opposition Demain Angers dénonce un système jugé, je cite, « pas assez équitable » et réclame une refonte de la grille tarifaire pour mieux prendre en compte les revenus des familles. Et du rugby maintenant, avec une grosse désillusion pour les Angevins. En Fédéral 3, le SCO Rugby Angers s'est incliné à domicile dimanche 24 mai face au Paris 15 Rugby Club en 16e de finale retour. Pourtant dominateur en début de rencontre devant près de 1500 supporters, les Angevins n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort et ont été punis par le réalisme parisien. Score final 29 à 19 pour les Parisiens qui valident leur montée en Fédéral 2, alors que le SCO Angers voit son parcours s'arrêter aux portes de la qualification. Une défaite frustrante, mais les dirigeants retiennent malgré tout une saison globalement réussie et riche en enseignements pour la suite.
Depuis le 8 mai jusqu'au 21 juin 2026, une exposition un peu particulière est disponible aux Rives d'Art au Pont de Cé. Ce que l'on reflète. L'artiste Nina Faustine, qui est déjà assez connue dans le Maine-et-Loire, elle est déjà venue au Pont de Cé avec différents ateliers, avec des enfants, mais aussi avec des plus grands, afin de leur permettre de plonger dans son monde, mais aussi permettre l'initiation de l'art en février. Peintre en décor et illustratrice, elle a réalisé une exposition qui reste centrée sur la ligne, avec l'observation directe d'éléments naturels avec un thème assez végétal. Cette exposition-là est collaborative avec un public diversifié, enfants, adultes, plus âgés ou handicapés. Cela a permis à la commune de participer et d'être inclus dans ce procédé artistique qui, encore une fois, peut servir d'initiation à l'art et montrer que ce n'est pas réservé uniquement à quelques personnes, mais que c'est accessible à tous. Alors, si vous souhaitez y faire un tour, c'est au Pont de Cé, à la Galerie des Rives d'Art, avec une entrée gratuite pour tous. Nous allons également parler du Printemps des Folies, un événement organisé par les Folies Angevines, un café-spectacle. Alors, pour avoir quelques bonnes bases, les Folies Angevines est une salle de spectacle qui propose une multitude de stages et de cours. Des ateliers et des stages sont disponibles pour petits et grands. Danse, clown, chant, comédie musicale, théâtre, impro, mais aussi humour. Association créée depuis 2019, elle accueille tous les ans des intervenants et de nouveaux élèves qui se retrouvent pour une représentation finale, le Printemps des Folies. La Folie des Printemps, non, le Printemps des Folies. C'est un festival mettant en avant le théâtre, mais c'est plus précisément un moyen de mettre en avant les élèves de l'association des Folies Angevines et ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Alors, depuis le 2 mai jusqu'au 4 juillet 2026, 140 représentations sont disponibles et à entrée libre. Au programme, théâtre, comédie musicale, humour et encore d'autres vous sont proposés cette année. Si vous voulez absolument voir un spectacle en particulier, vous pouvez réserver votre place sur le site des Folies Angevines.
J'ai l'info sur Radio G.
Eh bien, merci à vous deux pour ce tour de l'actualité du territoire. Eh bien, on enchaîne sans plus tarder avec l'édito impro de Charles.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édito impro. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce week-end, j'étais au Havre, plus précisément à Gonfreville-l'Orcher. Voilà, que vous connaissez tous, évidemment, pour participer au tournoi international de la frite. La Fédération régionale d'improvisation théâtrale. Et évidemment, vu qu'on était dans le Nord, ils en ont profité pour faire une blague, jeu de mots, avec la frite. C'était un super week-end où j'ai pu jouer avec l'équipe locale, la frite, donc, mais aussi avec les Avocats du Diable de Belgique et la Libère de Berlin. C'était la première fois que je rencontrais, que je faisais du match d'impro contre des Allemands. C'était trop bien. Et c'était en français, avant que vous posiez la question. Voilà, c'était en français. Moi, j'étais dans l'équipe du Kick du Québec. C'était une équipe composée de vieux briscards d'impro datant de notre terminale. Ce tournoi était donc une occasion pour nous de nous retrouver 15 ans après notre séparation. Ça date. Donc oui, gros week-end. Et à travers la fête du tournoi, on en a profité pour se remémorer la belle vieille époque de notre vingtaine. Les matchs, les tournois, nos copains qu'on a perdus de vue, etc., etc. Et j'ai eu énormément de crises de fou rire pendant mon week-end. Et j'aimerais en partager un avec vous ce soir. Pas seulement parce que c'est une super anecdote, mais aussi parce que je trouve qu'il y a un enseignement à avoir là-dedans. L'anecdote va comme suit. Attention, flashback! On est en 2008. Katy Perry arrive sur la scène mondiale avec I Kiss a Girl. Sarko et Carla Bruni viennent de se dire oui. Et l'impossibilité de plusieurs ménages américains de rembourser un prêt immobilier déclenche, pour une raison qui m'échappe, une crise économique mondiale. On est à l'Université Laval de Québec en plein tournoi d'improvisation et une équipe appelée les Ironiques de Montréal ont un joueur qui tombe malencontreusement malade. Donc, question que je pose autour de la table, quelle solution pensez-vous qu'ils ont trouvé pour remplacer leur joueur malade? Attention, 3, 2, 1, Pierre-Benoît, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu t'as remplacé?
Ils t'ont appelé, toi?
Moi, appelez-moi. Non, j'étais dans une autre équipe.
Ah oui, t'étais dans une autre équipe?
Ouais, j'étais dans une autre équipe. Donc, appelez quelqu'un d'autre, appelez...
Dans le public?
Dans le public. Qu'est-ce qu'on a... Là, je vois, il y a des crises de panique autour
de... Non, j'aurais dit toi aussi, appelez-toi, mais du coup, non. Mais...
Bah, écoute, c'est très bien, fantastique. C'est pas du tout ça. Ils sont allés à la cantine, dans la cuisine, pour aller chercher un gros chou. Voilà, silence dramatique.
C'est le nom d'une fonction de quelqu'un dans la cuisine?
Non, réellement, un chou, le... légume, quoi.
L'animal.
Et ouais, c'est ça, l'animal. Et ils sont allés chercher un gros chou, ils ont mis des lunettes de magasin de farce et attrape avec un gros nez, une grosse moustache, comme les espions de qualité qui veulent se cacher. Et ça a été leur sixième joueur on l'a appelé Choubi le chou. Choubi le chou, sixième joueur des Ironiques de Montréal. Le chou va faire tout le tournoi, il va participer à tout le tournoi, donc on parle quand même de 6 matchs. Et en plus, il va être sélectionné pour faire le match des étoiles à la fin du tournoi. Donc le match qui réunit tous les meilleurs joueurs et joueuses du tournoi.
Et ça a duré combien de temps au total en termes de en calendrier? Parce que un chou hors frigo, ça dure peut-être pas longtemps.
Ouais, ça on est d'accord. Non, mais là on était sur un week-end, tu vois, comme le tournoi qu'on était là. Donc dans l'aliment, il y avait Choubi le chou. J'ai souvenir, donc dans ce match des étoiles, d'un joueur, Pablo Beauregard, que j'aime et respecte, qui a dû faire une improvisation mixte. Un joueur par équipe face au chou. Ce qui veut dire que il est arrivé en patinoire en disant allez, je vais faire mon impro, et l'équipe adverse est arrivée avec le chou, l'a posé sur scène et est retourné s'asseoir en disant deal avec. Pablo a dû faire une impro comme s'il parlait avec le chou, de sorte que ça ressemblait à comment ça va toi? Ouais, moi aussi, j'ai vraiment des problèmes avec ma famille. Tu vois, donc c'était une improvisation longue, mais à hurler de rire. Et en plus, je pense qu'il a perdu le point. Donc, en France, ce genre de gag-là, ça serait tout simplement impossible. T'as des grosses salles qui font confiance à des associations locales pour remplir leur jauge. T'as un public qui se déplace, qui connaît peut-être peu ou pas l'impro. Il y a beaucoup de facteurs sérieux qui rentrent en ligne de compte et qui mettent la pression aux associations pour gagner de la crédibilité. Au Québec, les tournois sont peu médiatisés. Ça joue beaucoup. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, t'enchaînes des matchs de 8h30, on en a déjà parlé à Topette, de 8h30 le matin jusqu'à 20h le soir. Ça joue beaucoup devant très peu de public, genre une dizaine de personnes, et le reste du public, c'est les joueurs qui sont en attente, eux, de jouer après. L'ambiance est vraiment, vraiment différente qu'en France. Genre, ce week-end, au Havre, c'est comme si on était arrivé avec une courgette à moustache en disant « Ah ben, c'est notre cinquième joueur du kick. » Ça aurait été vu comme une insulte, parce qu'on n'aurait pas pris l'organisation de tout ça au sérieux. Et il y aurait eu raison en quelque part. Mais cette aventure-là du chou improvisateur souligne une problématique dans le jeu français. Je dis pas que le système québécois est parfait, la preuve en est que quand eux viennent jouer en France, ils sont hyper contents, impressionnés, ils se sentent tout petits dans leur performance. Je dis juste qu'en France, on a un problème de lâcher prise. On s'entraîne beaucoup et on joue peu, à l'inverse du Québec, comme on a dit. Quand on joue, on veut réussir à placer tout ce qu'on a appris en entraînement. On a tendance à oublier que le spectacle, c'est pas un moment de restitution de talent, c'est pas un talent show. On n'est pas en fin d'année avec les petites classes. Non, c'est un autre laboratoire de création. Simplement, ça se fait devant le public. Cette pression-là de rendu freine notre lâcher prise qui, elle, est importante en impro. C'est primordial. Ce week-end, il était 200 dans la salle. On était dans un beau théâtre. On a même rencontré le maire de la ville qui est venu nous remercier d'être présents. Nous, j'étais là pour retrouver mes potes de la fac, quoi. Et en plus, t'avais les techniciens qui font une lumière incroyable et tout. Donc, évidemment que tu vas être à niveau. Évidemment que si t'arrives avec une courgette, ben les gens vont être fâchés. En France, on est là pour donner un bon spectacle. On s'entraîne entre nous avec différentes personnes, oui, mais ça reste entre nous. Et quand on rencontre les équipes avec un peu moins de potentiel ou de talent, ben on est déçu. On se dit qu'en entraînement, on donne du meilleur matos et on rejette la faute sur l'autre de nous avoir freiné dans notre talent ou de pas avoir compris ce qu'on avait à proposer. C'est étrange à dire, mais on devrait s'entraîner beaucoup plus avec les autres équipes. Aussi pour apprendre à rencontrer. Comme si la Lima, par exemple, invitait les Folies en juin, on en a parlé tout à l'heure, pour s'entraîner ensemble. Je dis pas qu'au Québec, ils sont là pour donner un mauvais show. Juste, je crois sincèrement qu'ils s'en fichent. Ils font du match à toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine. Si tu fais un mauvais show, ben le prochain est dans 5 jours. Puis dans une saison, ben t'as 30 shows. C'est dire que tu t'en souviens pas si t'en as planté quelques-uns. On dit souvent que le match, c'est violent. Puis que c'est juste des personnes qui se rentrent dedans pour faire rire le public puis faire pencher la balance de notre bord. Mais on sait aussi que les plus belles impros, c'est celles où le public sait pas pour qui voter. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait pas revoir notre manière de nous entraîner? Lever le pied sur le cadre et plus se concentrer sur les fondamentaux, soit la rencontre et le jeu avec l'autre. Arrêter de voir l'autre comme un potentiel bâton dans les roues, mais comme un défi pour élever son jeu et arrêter de toujours jouer de la même manière. Pablo, quand il a vu le chou arriver en mixte, je vous cache pas, il y a peut-être une goutte de sueur qui est tombée. Mais il s'est pas dit que ça allait gâcher son impro. Il s'est dit, ben c'est ça, c'est là, je suis obligé de gérer avec. Et il a vu une manière de sublimer son impro par le ridicule. La preuve, 20 ans après, je me souviens pas de qui a gagné le tournoi. Mais on se souvient tous de Choubi le chou.
Merci bien pour cette belle chronique très enrichissante, Charles, et notamment donc cette histoire de chou improvisateur.
Mais tu connaissais-tu l'impro par le passé? T'en as déjà vu, toi, ou pas?
De quoi? Des compétitions?
Des matchs d'impro, ouais, des matchs d'impro et tout, non?
Pas spécialement, non. Pas spécialement, mais...
Bah, je te jure, d'habitude, il n'y a pas de chou.
Ouais, bah, je me doute bien. Et est-ce que t'as des actualités? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part prochainement?
Comme on dit souvent, et j'ai envie de dire de plus en plus souvent parce que, c'est le cas, la saison arrive tranquillement à sa fin. Personnellement, j'étais au Havre pour un tournoi d'impro amateur. Là, je repars à Nancy, donc dans l'Est, pour un autre tournoi international, match de 2 contre 2 en professionnel. Donc là, ça, c'est, on mets les curseurs ailleurs, c'est un peu plus de difficultés, un peu plus de pression, mais ça fait plaisir. Mais les vacances vont faire du bien à tout le monde, je pense.
C'est ça, un programme chargé donc encore pour toi, Charles. Eh bien, on enchaîne sans plus tarder avec la chronique de Junior.
Hello, j'espère que vous allez bien. Eh ben, ça fait un bail, hein, comme je disais tout à l'heure, ça fait depuis le mois de mars qu'on s'est pas vu. Ça va. La vie, elle a fait que j'ai pas pu être présente sur les ondes pendant tout ce temps. Alors, pas de temps à perdre, il faut que je vous mette à jour. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Junior, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux pour motiver les filles à se mettre au sport de glisse. Avant, je disais juste que je créais autour du snow, du surf et du skate, mais en fait j'ai compris un truc pendant ces quelques mois et il faut absolument que je vous explique. Quand je vous parle de niche, vous voyez ce que je veux dire ? La team ?
Oui, c'est pas... moi je vois ce que c'est, mais Colin, Simon ?
Oui, ouais, des sujets banals quoi.
Ok.
Ouais, c'est ça. En fait, sur les réseaux, on dit souvent que la niche, c'est toi. Parce qu'il n'y a que toi pour raconter ton histoire. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Si tu postes du contenu sur n'importe quel réseau social, tu ne pourras jamais échapper à l'algorithme. Cet algorithme, j'essaye de plus en plus de le voir comme une personne dans un bureau en train de trier des lettres. Je vais vous expliquer. S'il reçoit une lettre où l'adresse n'est pas claire, il peut soit le renvoyer à l'expéditeur, donc en fait ne faire zéro vue, ou soit l'envoyer à plein de gens différents pour voir qui pourra être intéressé par ce courrier. Alors que si tu écris une adresse précise comme « les filles qui aimeraient se mettre à un sport de glisse mais qui n'osent pas se lancer », là c'est clair. La personne, elle sait vers où envoyer mon message. Vous voyez la subtilité ou pas ? Après, on peut toujours mettre des nuances. Perso, j'aimerais être suivie par une majorité de filles, mais je ne veux pas exclure les garçons de ma communauté. Le sport, il est fait pour tout le monde, il faut juste un peu plus de sororité à certains endroits. C'est pourquoi j'essaie de proposer du contenu dirigé pour les filles, oui, mais aussi d'autres qui peuvent intéresser tout le monde. Mieux tu connaîtras ton audience et mieux tu sauras comment lui parler. Et puis, à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les piliers, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment. Ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans ton contenu. Ça permet aux gens de te suivre pour différentes choses et d'avoir du choix. Le pilier le plus connu que je peux vous montrer là, c'est le pilier éducatif. Là, tu apportes une valeur concrète à ton audience, le savoir. Les gens, ils vont s'abonner à toi parce que tu leur apprends quelque chose. Par exemple, chaque mercredi, je poste une vidéo sur une femme emblématique de son sport. Après, tu as le contenu informatif. Là, ce sont les tips, les astuces, les choses que ton audience pourront enregistrer pour ne pas oublier. Pour ce pilier-là, j'ai tendance à faire des carousels des skateparks où je vais. Ça plaît beaucoup parce que je réunis toutes les infos pratiques concernant le parc et les gens ont juste à le sauvegarder pour plus tard. Et enfin, tu as le contenu personnel. C'est celui que je préfère, celui qui va vraiment te connecter à ton audience. C'est là où tu vas montrer ta personnalité, tes défis, comment tu fais face à un problème. Ça revient un peu à faire du personal branding pour ceux qui connaissent. Perso, j'adore faire des vidéos où je vous raconte comment s'est passée ma session de surf ou de skate. Et puis, en fait, ça permet aussi d'avoir de la communication en commentaire parce que j'adore lire tous vos conseils, c'est super enrichissant et j'apprends beaucoup. Au début, je voulais pas trop réfléchir comme ça parce que j'avais peur que ça fasse machine ou que ça perde son naturel. Mais en fait, avoir un cadre, c'est aussi une façon de multiplier ta boîte à idées. Et les gens, ils savent à quoi s'attendre en s'abonnant à ton compte. Ça entretient une relation de confiance et c'est super important parce que quelqu'un qui s'abonne à quelque chose et qui, au final, ne retrouve pas ce pourquoi il s'est abonné, il se sent un peu trahi et c'est un peu dommage. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça m'a pris presque 6 mois pour vraiment le comprendre et le mettre en pratique. Maintenant, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai commencé le skate sur Angers parce qu'il n'y avait pas de surf et je me rends compte que les gens, ils me suivent plus pour le skate que pour le surf. Et ça me fait rire parce que, à la base, moi, je voulais vraiment être créatrice de contenu, d'abord sur le surf et ensuite dans d'autres sports. Et c'est autre chose qui est en train de se passer. Ça montre aussi qu'à partir du moment où tu postes, que t'es régulière, au bout du compte, ce qui se passe, ça t'appartient pas vraiment. C'est les gens qui choisissent un peu pour toi. Et en fait, si je peux aider des filles à se mettre au skate, je serais honorée de leur montrer. Ce que j'adore par-dessus tout dans la création de contenu, c'est cette évolution permanente, le fait que tu apprennes tous les jours et que tu peux te réinventer aussi souvent que tu le veux, le temps de trouver ton audience. Et même s'il y a des semaines plus dures que d'autres, je suis super fière d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est un peu aussi grâce à vous, alors merci. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram, sur junior.vlog. Pensez à boire aussi pendant les fortes chaleurs. Je vous fais des bisous. Tchuss!
Tout roule pour toi d'une certaine façon. Simon.
Ouais, merci beaucoup pour cette belle chronique très intéressante. Oui, tu veux dire un truc,
Charles? Ouais, moi j'ai une question
Charles,
pour toi.
Charles, je t'écoute.
J'ai une question pour toi, Junior, dans ta chronique de Jones. tu dis qu'à la base, c'était un truc, tu voulais te concentrer sur le surf parce que c'était un peu ce que tu ce que t'aimes et que du coup, tu te réorientes vers le skate parce que c'est ce qui... c'est ce qui fonctionne au final sur ta plateforme. Est-ce que du coup ça dénature un peu ta vision des choses, de ton plaisir de faire, pas nécessairement de gâche ton plaisir parce que t'aimes les deux, mais est-ce que ça réoriente un peu ce que qui est-ce qui dirige, c'est toi ou c'est ta commu en fait?
Bah ça reste moi quand même parce que c'est mon compte et même si au bout d'un moment j'avais beaucoup de skateurs qui me suivaient. Et je me suis dit, bah mince, en fait, les gens, du coup, quand je parle de snow, quand je parle de surf, bah ça les intéresse plus. En fait, je leur ai dit, bah oui, mais si ça les intéresse pas, bah ils peuvent aussi aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour proposer plein de sports. Et en fait, c'est vrai que le fait de vivre sur Angers, bah ça me permet pas de surfer autant pour faire plein de contenu autour. Ouais. Donc, je me suis mis au skate. Et en fait, ce que les gens ont beaucoup aimé, c'est que bah j'ai commencé en tant que débutante. Et donc, du coup, on progresse un peu tous en même temps. Et en fait... même si de base, c'est vrai que je me suis mis au skate pour avoir un sport de transition entre le snow et le surf. Donc pas forcément pour moi, mais aussi plus aussi pour proposer du contenu. En fait, aujourd'hui, je commence à vraiment kiffer le skate parce que je me sens portée derrière par tous les commentaires, les messages, les gens qui ont envie de se mettre au skate, qui se mettent au skate. J'ai reçu des messages de filles qui ont réussi à se mettre au skate grâce à mes vidéos. Et ça porte énormément... c'est chouette, quoi.
Donc, tu t'es fait avoir, mais je veux dire, ça t'a permis, toi, de découvrir, ce que, pas nécessairement ce que tu voulais, mais qu'est-ce qui peut être intéressant à raconter, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, et je sais que c'est toujours cool de varier, en fait, ce que tu fais, parce que, par exemple, dans la niche du surf, dans la création de contenu, c'est con, mais il faut y penser, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre de la création de contenu en tant que surfeur, c'est quasiment impossible. Et donc, le fait de pouvoir aussi bosser avec d'autres sports, donc d'autres marques et d'autres environnements, ça permet d'avoir un peu un filet de sécurité aussi. J'y pense parce que moi, je veux vraiment vivre de ça. Et j'ai pas envie non plus de tomber dans le truc. Il faut que je fasse du contenu parce qu'au final, il faut que j'en vive. Il faut que ça reste du plaisir. Je veux pas être une machine. Et le skate, c'est vraiment le bon compromis. C'est trop chouette, quoi. Ça me permet d'avoir un peu de glisse. Entre le surf et le snow, quoi. Je sais pas si j'ai été claire. Ouais, j'ai répondu à ta question ou pas?
Ouais, si, complètement. Okay, et cool. En plus, t'as fini sur une belle ouverture de, ça va un peu de glisse, quoi, rapport à...
Allez-y, glissez vers l'autre sujet, je vous en prie.
De la glisse à la glace, il n'y a que pas beaucoup de syllabes de différence. On le rappelle, il fait chaud, hein, tu l'as dit, il faut boire. Transition comme une autre. Pour redonner la parole à Simon. Merci, Junior, on se retrouve dans deux semaines.
Eh ben, place du coup désormais au fauneur concernant le Fatal Festival avec Sidonie.
Nous allons tout de suite accueillir Bernard Bourgeois, qui fait partie d'une compagnie sur Brissac et fait aussi partie de l'asso Stoff, qui organise le festival Fatal. Spécifiquement, il gère les spectacles chez les habitants et les troupes. Mais avant ça, Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'identité du festival Fatal ?
Alors, c'est un festival qui a été créé suite à la sortie de un peu après la sortie du Covid, où le festival précédent, qui était le Tout pour le Tout, a finalement été arrêté, et une partie des gens qui s'occupaient de ce festival ont décidé de reprendre l'idée. Donc c'est un festival qui a été créé avec deux objectifs d'ailleurs. Le premier, c'est de réunir un maximum de troupes pour les faire jouer, de compagnies pour les faire jouer, et que ce festival soit fait par les festivaliers eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un festival pour les amateurs, par les amateurs. Donc il y a toute une organisation bénévole qui est faite dans ce sens-là. Ensuite, il faut arriver à faire jouer un certain nombre de pièces qui sont choisies, donc qui sont proposées par les compagnies et qu'on va voir. Et parfois on est obligé de faire un peu de choix, malheureusement, mais bien souvent on en prend quand même beaucoup puisqu'on a quand même, je crois, 23 spectacles au total cette année, et c'est à peu près le nombre de spectacles qu'on a chaque année. Voilà. Et alors l'autre objectif aussi est d'avoir un côté animatif d'animation dans un quartier. Là cette année, depuis la dernière, c'est le lac de Maine. Voilà. Après, ça sera peut-être ailleurs une autre fois, mais pour le moment, en tout cas, c'est le lac de Maine où on est particulièrement bien accueillis.
Très bien, du coup, bah, c'est le festival Art Vivant Théâtre Amateur Ligérien. Est-ce que vous connaissez d'autres festivals du même type dans la région ou c'est le seul justement qui a pris ce rôle de coopération, de participation?
Oui, il y a quelques festivals qui existent dans la région. Il y a au mois de novembre, il y a à Douai-la-Fontaine, à Théâtre Amadoué. Il y a un festival qui se fait sur Cholet aussi. Sur Saumur, j'ai pas de connaissances. C'est plutôt celui de Douai-la-Fontaine. Et autrement, il faut sortir du Maine-et-Loire et aller sur le festival qui est fait par l'équipe qui organise sur l'ensemble de la région. Ça sera le week-end prochain d'ailleurs.
Voilà. Oui, donc c'est un peu une avancée dans la région quand même. Il y en a pas partout. Du coup, ça sera du 28 mai au 31 mai. Est-ce que vous pouvez un peu nous teaser? Est-ce qu'il y a déjà des animations de prévues que vous avez en tête?
Oui, alors il y a toutes les pièces qui sont jouées. Donc il y a des pièces qui sont jouées sur la salle de spectacle que nous avons aménagée à l'intérieur de la maison de quartier du lac de Maine. Qui est une salle de spectacle qui finalement répond à pas mal de critères quasiment professionnels de façon dont c'est aménagé, où on peut faire rentrer jusqu'à 80 spectateurs, et qui ont été choisis par nous pour le festival. Il y a aussi des spectacles qui sont faits un peu en dehors, devant, sur un podium, en dehors de l'intérieur de la maison de quartier, et il y a des spectacles, il y en aura 7 au total, qui sont organisés chez les habitants qui accueillent des compagnies. Voilà, il y a 4 habitants qui accueillent des compagnies, et il y en a 3 qui accueillent deux spectacles à chaque fois.
Oui,
et puis autour de ça, il y a une grosse animation qui est faite par justement une équipe dite d'animation, donc des gens qui sont des bénévoles volontaires dans l'association ou dans le festival, qui vont animer chaque début de spectacle. Alors on appelle ça des aboyeurs, mais c'est des gens qui sur une impro avec un canevas vont essayer de présenter au public avant que le spectacle commence, faire une petite animation. Et c'est assez truculent en général. Et c'est un des moments assez typiques de ce festival, de ce moment amusant, drôle, plus ou moins improvisé, qui fait que voilà, ça amuse tout le monde et ça permet surtout de mettre les gens en bonne situation pour aller rentrer dans la salle ou aller chez l'habitant voir le spectacle. Voilà pour ce qui est des animations. Il y aura le jeudi soir, il y a donc l'ouverture du festival avec un moment un peu festif. Il y aura aussi quelque chose le samedi et puis le dimanche, il y aura une clôture de festival.
Et du coup, ça fait quand même beaucoup d'activités, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça permet un peu de varier. Et le public visé, est-ce que ce sont des familles, plutôt des jeunes, les habitants même du lac de Maine?
Alors oui, c'est un public il y a double objectif. C'est en effet chaque compagnie amène ses connaissances, ses familles, ses gens qui viennent. Mais l'idée, c'est qu'on dépasse largement ce public-là parce que les spectacles sont de qualité et que ça attire d'autres personnes, particulièrement les gens du quartier. Et le fait que les habitants s'y intéressent, ça rayonne aussi dans le quartier et ça attire du monde. Et puis ça commence à être maintenant on est à la 4e édition, donc ça commence à être un peu connu sur Angers. Donc les gens viennent, et puis les environs d'Angers, viennent pour voir, pour passer un bon moment. Et en fait, c'est 4 jours très animés où si on a réservé ces journées, on peut vraiment passer voir plusieurs spectacles. Et en plus, c'est des spectacles accessibles financièrement puisque c'est au chapeau, c'est en fonction de ce que chacun veut bien mettre pour participer financièrement.
Oui, les tarifs accessibles, ça permet à une ouverture un peu plus grande au public. Mais est-ce que, même si c'est déjà la 4e édition que vous connaissez bien, est-ce que c'est pas compliqué de mettre en place un festival participatif comme ça? Je veux dire, de ramener à chaque fois les gens. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes personnes qui viennent pour les spectacles?
Si tout était simple, ça serait merveilleux. bien sûr que c'est compliqué. Mais bon, on a suffisamment d'énergie, d'envie et de passion pour animer ça. Alors l'équipe du staff, on n'est pas énorme. Je crois qu'on est 8 si je me rappelle bien. Donc ça fait pas, on n'est pas beaucoup de personnes pour démarrer, pour organiser l'ensemble. Mais derrière, il y a tous les bénévoles qui sont très très nombreux, hein, qui vont s'occuper pour les uns du bar, pour les autres de la billetterie, pour d'autres pour accueillir les troupes, pour faire les aboyeurs, etc. Et pour aider à la technique surtout, parce qu'il faut monter la technique, il faut démonter, il faut transporter du matériel. Ça c'est un côté un peu lourd quand même du festival. Voilà, donc tout ça, ça demande de la main d'œuvre, ça demande aussi des gens qui réfléchissent un petit peu, qui pensent, qui s'organisent. Et ben, on est content d'avoir les bénévoles qui viennent à peu près de toutes les troupes, enfin, toutes les compagnies.
Oui, ça permet une cohésion parmi toutes les troupes et de se découvrir aussi entre vous. Est-ce que vous avez quelque chose encore à dire sur ces 4 jours assez chargés?
Alors, je dirais, j'ai envie de dire chargé, tant mieux. Ben, ça, c'est bien. Donc, en fait, je dirais, je ne regardais pas le mot chargé parce que je le trouve un tout petit peu lourd. C'est surtout bien plein de choses et que on va tous passer 4 jours très sympathiques dans une ambiance festivalière où les gens se retrouvent entre eux déjà, avec les différentes compagnies, et puis avec des animations, avec des spectacles qu'on n'a pas vu, qu'on va pouvoir voir. Voilà, il y a plein de spectacles. Puis il y a des spectacles de genres très différents. Il y a des spectacles très très comiques, très humoristiques. Il y a des spectacles qui sont des scènes en scène. Il y a des spectacles qui sont sur des choses un peu plus grosses productions, on dira, parce qu'ils sont plus nombreux. Il y a plus de matériel, plus de décors, mais avec des thèmes bien souvent un peu plus fouillés, un peu plus travaillés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses différentes, il y en a pour tout le monde, et c'est dans une ambiance plutôt sympa, très sympathique, et c'est ça qui on est pressé d'y arriver, parce que c'est vraiment un grand moment.
Eh ben, merci beaucoup Bernard pour ces explications sur le festival Fatal. Ça a l'air d'être un festival assez jovial, et du coup j'invite tout le monde à venir du 28 au 31 mai 2026 à, si je ne dis pas de bêtises, à la maison de quartier du lac de Maine.
Exactement, et ça commence le mercredi déjà, par un spectacle pour les enfants qui se trouve à la bibliothèque du lac de Maine, et qui se trouve, je regarde mes notes, à 15h30 à la bibliothèque du lac de Maine, et ça s'appelle Week-end à Londres. Et donc, alors je sais pas si c'est déjà plein ou pas, parce que c'est prioritairement pour les gens de la bibliothèque, mais n'hésitez pas à aller à la bibliothèque, c'est de voir s'il y a des places avec ce spectacle qui a une destination au jeune public. Voilà, Week-end à Londres.
Et bah parfait, et puis merci beaucoup Bernard d'être venu et de nous en avoir parlé.
Merci Sidonie du coup pour ce beau funeur, on aura appelé pas mal de choses une nouvelle fois. Merci à tous pour cette belle émission, restez quand même avec nous, on le rappelle, car on finit la journée avec Tonton Albert. Dans l'émission de demain, nous accueillerons la chargée de communication de chez WeAct, ainsi que le théâtre des champs de bataille. Et en attendant, bonne fin de journée, Topette.
Topette.
Merci beaucoup Topette, à demain, ciao.
Alors, tonton, tu en as encore après les robots ?
Pas du tout, Sidonie. Comment peux-tu imaginer une chose pareille ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un humain. Un humain doté de capacités étonnantes, puisqu'il s'exprime à chaque fois avec une voix différente, bien que se présentant à tous et toutes avec la même identité.
C'est-à-dire ? C'est un imitateur ?
Non, encore que j'ignore s'il ne possède pas aussi ce talent-là. Ah, détail important, notre héros du jour a un point en commun avec toi et moi, puisqu'il cause dans le poste, mais au téléphone. C'est quelqu'un qui habite dans le téléphone et qui appelle ici ou là pour prévenir que vous êtes potentiellement victime d'une tentative de fraude sur votre compte bancaire. Julien Berthaud, car tel est son nom, veille jalousement sur les comptes en banque de France et de Navarre et sonne le tocsin dès qu'un mouvement suspect a été détecté sur votre compte. Plus exactement, quand Julien Berthaud a imaginé une tentative de fraude. Le scénario change régulièrement de décor, mais la trame narrative reste la même. Julien Berthaud doit être un assidu de la collection Harlequin. Bref, quelqu'un de malveillant a piraté votre carte bancaire à distance et aspire bien à s'en servir depuis l'Espagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est ou le Kosovo méridional. Heureusement que Julien Berthaud veille au grain. Il l'a bien vu, notre Julien, que ça sentait fort l'arnaque, cet achat de 399,95 € à Munich ou Barcelone. Car il n'est pas dupe, Julien Berthaud. Il sait très bien que vous êtes sagement resté en Anjou, dans vos pantoufles, à regarder Michel Drucker. Par professionnalisme, il vous pose tout de même la question « Madame Michu, êtes-vous allé récemment faire du shopping à Madrid ?» Et Madame Michu de répondre
« Ben non, je suis allée au marché de Beaufort pour acheter du reblochon, et même que j'ai payé en liquide. D'abord, je n'ai même pas de carte bancaire. »
Là, normalement, Julien Berthaud raccroche. Votre compte en banque ne l'intéresse plus. Si vous n'avez même pas de carte bancaire, c'est que vous êtes encore plus indigent qu'un chroniqueur de Radio G. En tout cas, Julien Berthaud n'a rien d'une feignasse, car il bosse simultanément à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la Banque Postale, voire, qui sait, à la banqueroute. Il ne compte pas ses heures non plus, le Julien, puisqu'il vous appelle même après l'heure de fermeture des bureaux ou le dimanche. Comprenez bien, le pognon qui est susceptible de tomber dans l'escarcelle d'un fraudeur, ça nécessite d'agir dans l'urgence. Un peu comme si une tronçonneuse vorace vous avait sectionné une guibole. Vous l'aurez compris, tout ceci n'est que faribole et autres balivernes débitées pour abuser le crédule qui sommeille en nous. Et s'il y a bien des Julien Berthaud à travers tout le pays, peu d'entre eux travaillent effectivement au service fraude de votre banque. On serait même tenté d'inviter les vrais Julien Berthaud qui nous écoutent à déposer des plaintes pour usurpation d'identité. Maintenant, Sidonie, nous allons passer aux fiches pratiques.
Comment se débarrasser des Julien Berthaud qui vous appellent ?
Exactement, Sidonie. Heureusement, les parades possibles ne manquent pas. Vous pouvez dire par exemple qu'en effet, vous avez bien procédé à cette emplette de 4 717,99 € à Bratislava. Parce que c'était une affaire à ne pas manquer. Un stock de cannabis tombé du camion, entre nous, ça ne se refuse pas. Ce qui est ballot, c'est qu'au téléphone, vous ne pourrez pas voir la tronche déconfite du dit Julien Berthaud. Cependant, vous pourrez au moins l'imaginer. Pas sûr qu'il ne vous délivre pas en prime quelques noms d'oiseaux en vous raccrochant au nez. Vous pouvez aussi, évidemment, user de ce handicap bien réel qui prête néanmoins à sourire. J'ai nommé le « la dur de la feuille ». À chaque phrase déroulée par Julien Berthaud, vous le faites répéter en multipliant les « comment » et les « ah, la ligne est mauvaise ». En toute logique, Julien devrait craquer en moins de 2 minutes. Rien ne vous interdit d'emmerder des emmerdeurs. Et puis, le must absolu, le truc qui amuse toujours le taquin que je suis et que je vous offre sans supplément, le voici. Dès que Julien Berthaud aura décliné son identité, dites-lui qu'il s'agit très certainement d'une erreur, car vous n'avez pas le téléphone. L'effet est rigoureusement garanti. Vous devriez obtenir un joli blanc chez votre interlocuteur et soit vous raccrochez simplement, soit vous attendez sa réaction, ce qui vous imposera de broder pour continuer de rigoler. Mais la question fondamentale, c'est évidemment comment a-t-on multiplié les Julien Berthaud comme jadis certains ont pu multiplier les pains ou les poissons. Le point de départ, ce sont les intrusions dans nombre de sites officiels de notre belle République, comme celui de l'ANTS, à savoir l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Oui, notez bien, le mot important, c'est évidemment sécurisé. On est prié de ne pas rire. Le pompon, on le doit au site des impôts. Cela fait plaisir de voir comment l'entité censée collecter notre argent pour le renvoyer en grande partie dans la poche des banquiers pour cause de dettes abyssales, protège les données personnelles des adhérents obligatoires que nous sommes. c'est à se demander si l'on n'a pas demandé aux stagiaires de troisième, les stagiaires de troisième sont tous un peu geeks, de bricoler à la diable un dispositif de sécurité. Ah, c'est sûr, si c'est le cas, ça n'a pas dû coûter très cher aux contribuables. En même temps, on en a pour notre argent. On est même en droit de se demander si le système de sécurité informatique des impôts n'était pas calqué sur celui du musée du Louvre, pour lequel, faut-il le rappeler, le mot de passe était « Louvre ». Ça ne s'invente pas. Peut-être que le choix de « ferme » en guise de mot de passe aurait évité le cambriolage.
Il me semble, mon tonton, que tu as encore une petite chose à nous servir.
Tout juste, ma jeune amie. Je pensais que cette petite brève que je conservais au chaud était parfaitement dissociée de ce que je viens de raconter. Et puis, tout bien considéré, je m'aperçois qu'il n'en est rien. J'ai remarqué tout récemment qu'il existait sur la riante commune d'Andard, pas très loin d'Angers, une impasse de la fraternité. Original, n'est-ce pas? Au moins, c'est faire preuve de la lucidité du visionnaire que de loger la fraternité dans un cul-de-sac. Ou alors, mais là, ce serait pour le moins optimiste, cela reviendrait à considérer la fraternité comme trop genrée. Et il deviendrait urgent de lui substituer la solidarité, bien plus universelle et aucunement sexiste.
Le premier sourire de mon père, mes premières bougies soufflées, j'ai oublié la dernière porte claquée de ma mère, le dernier dessin animé, la première danse. Minutes de silence, oublier les visages de la résistance, la première femme qui a voté en France, oublier les bateaux de fortune, oublier le jour où sur la lune un homme a marché, j'ai oublié. Dans la cour,
dedans. L'élan coupé à ras, la suite figée dans, ça viendra. Peut-être pourvu que prières et vœux. Je vendrai ma maison à celui qui n'y coupera pas les fleurs. Je vendrai ma maison à celui-là seulement. Je vendrai ma maison à celui qui n'y coupera pas les fleurs. Et comme il ne vient pas, j'attends. L'attente me l'a dit, elle aime ma gueule, mon herbe, ma compagnie. Et si je la déteste, elle s'en fout.